Ariane 5, donc, c'est le leader mondial des lanceurs, hein, qui permet de capter plus de la moitié du marché des satellites commerciaux.
Ici, à Vernon, nous faisons les moteurs d'Ariane. Et après, les étages sont assemblés au Mureau et à Brême. Et ce sont ces étages qui, après, seront expédiés en Guyane pour faire l'assemblage de la fusée.
On va vivre ce lancement autant du point de vue visuel, sonore que dans nos tripes, parce que les vibrations vont nous arriver par le sol jusqu'à nous.
On en aura le cœur net en 2020 et il battra la chamade ce jour-là quand de Kourou en Guyane sera propulsée la nouvelle Ariane 6. Tiendra-t-il le choc, ce lanceur européen qui pèse presque 100 millions d'euros de moins que l'actuelle Ariane 5? Son fuselage métallique sera fabriqué par MT Aerospace en Allemagne, à Augsbourg, et ses moteurs uniques, les célèbres boosters P120, équiperont également la petite fusée européenne Vega. Autant d'économies d'échelle qui s'imposent à l'ère des aventures spatiales low cost. Qu'elles nous viennent des États-Unis où l'entreprise SpaceX est entrée dans l'histoire en 2012 comme la première compagnie privée à ravitailler la station spatiale internationale. Son lanceur Falcon 9 a réussi 18 tirs, évidemment bien moins cher qu'Ariane 5, mais l'explosion d'une fusée le 28 juin dernier a un peu ralenti la marche fulgurante de cette entreprise californienne. Entre-temps, d'autres acteurs importants sont entrés dans le jeu cosmique, la Chine, avec l'alunissage de la Lapin de Jade, c'était en décembre 2013, un demi-siècle de retard sur les Russes, mais les Chinois débarquaient sur la Lune. Plus sérieusement, Pékin rattrape à très grande vitesse ses aînés et lance déjà plus de satellites que les États-Unis chaque année. Enfin, l'Inde a aussi frappé les esprits en plaçant sur l'orbite de Mars une sonde 10 fois moins chère que celle envoyée au même moment par la NASA. Il aura fallu 3 ans seulement aux Indiens pour développer ce programme ambitieux. Quels sont les défis à relever pour la fusée européenne? Dans le cœur d'Ariane 5, c'est un magazine signé Hakim Kasmi. Pour écouter et commenter ce magazine de la rédaction, nous avons invité Alain Charmeau, président d'ASL. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Donc ASL, c'est Airbus Safran Launchers qui conçoit et qui fabrique les fusées Ariane. Et puis à vos côtés, Rachel Villain. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Vous êtes conseiller espace chez Euroconsult. Et nous sommes en studio aussi avec Hakim Kasmi. Bonsoir Hakim.
Bonsoir Tara.
Vous rentrez de Guyane notamment, Hakim, pour ce magazine de la rédaction. Et vous avez pu y assister à un lancement réussi d'Ariane 5. Jusqu'à présent, cette société domine très largement le marché mondial des lanceurs, mais la concurrence est en train de s'organiser.
Et oui, à commencer par l'américain SpaceX, basé en Californie, son propriétaire, le milliardaire Elon Musk, qui fabrique déjà les voitures électriques les plus autonomes du monde, les Tesla, a décidé désormais de faire de la conquête spatiale une priorité. Il déclarait en 2006 à ses concurrents « Dans 5 ans, je cite, vous êtes morts ». Alors si cette phrase avait fait beaucoup rire à l'époque les Européens, aujourd'hui, ses propos ne les font plus du tout plaisanter. D'autant que le lanceur de satellite américain SpaceX avec sa fusée Falcon 9 coûte 50% moins cher qu'Ariane, ce qui lui permet de gagner des parts de marché aujourd'hui. Alors, pour réagir à cette nouvelle concurrence internationale, l'Europe spatiale a donc uni ses forces. Les 22 membres de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, préparent le projet Ariane 6. Prévu en 2020, elle devrait coûter 30 à 40% moins cher que sa petite sœur Ariane 5 et être mieux adapté au marché. Cela passera aussi par une meilleure répartition des rôles entre les principaux acteurs, à commencer par le SNES, le Centre National de l'Espace, et Arianespace, qui commercialise la fusée Ariane. Quant à Airbus, le systémier, et à Safran, le motoriste d'Ariane, ils ont décidé de travailler ensemble, c'était déjà le cas, mais aujourd'hui, ils vont s'unir avec ASL, Airbus Safran Launchers, pour tenter de partir à la conquête de ce marché, surtout de le préserver, car aujourd'hui, Ariane est le premier lanceur européen au monde.
Merci beaucoup Hakim. Alors on va écouter votre magazine qui commence à Vernon en Normandie dans l'Eure.
Avant d'être lancé sur son pas de tir à Kourou, de la première plaque métallique à l'assemblage final, il aura fallu 3 ans de travail pour concevoir Ariane 5. Tout commence ici à Vernon, dans l'Eure, en Normandie, où sont fabriqués les deux moteurs de la fusée, dont le Vulcain, qui dégage une puissance de 135 tonnes. Si 20% des pièces sont usinées directement à Vernon, le reste provient d'une dizaine de pays européens partenaires. David Cancard, directeur des opérations chez Airbus Safran Launcher.
Alors nous sommes ici dans la forêt de Vernon, sur un site qui existe depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un site industriel unique en Europe où l'on fabrique on étudie, on fabrique et on teste les moteurs d'Ariane 5 et on développe ceux d'Ariane 6.
Alors combien de personnes travaillent ici ?
Sur le site de Vernon travaillent 1100 personnes, une grande majorité d'ingénieurs de cadre, des techniciens, donc pour études, production de ces moteurs d'Ariane qui nous font vibrer à chacun de ces lancements. Et nous allons rentrer là où effectivement se fait l'assemblage. Donc nous passons par un sas. On va devoir s'équiper au niveau de tenue de façon à respecter la classe 100 000, c'est-à-dire ce qu'on appelle les salles blanches, dans lesquelles le niveau de pollution, de particules qu'il y a dans l'atmosphère est parfaitement contrôlé, de façon à éviter que ces particules puissent se mettre dans le moteur. Justement, je vous invite à vous équiper avec ces équipements d'hygiène.
Alors là, on a une machine qui nous permet en fait, de mettre ces petits chaussons qui nous permettent de protéger les chaussures pour éviter qu'il y ait des particules qui arrivent dans le moteur de la fusée.
Et entrer dans le sac au sein des moteurs de fusée. Pardon. Je vais vous mettre un chapeau sur la tête.
Ah, allez-y. David, on vient de s'équiper. On a mis une blouse, on a mis des petits chaussons sur nos chaussures, on a même mis aussi un petit chapeau. Pour quelle raison il faut s'équiper ainsi ?
Il faut bien se rendre compte des précisions de toutes les pièces que nous sommes en train de monter. Les pièces ont des très grandes tolérances. Et lorsqu'elles sont montées, il faut être sûr qu'il n'y ait pas la moindre particule. Si une particule se met, je dirais, lors d'un assemblage de canalisation sur un assemblage d'un équipement, ça peut après créer des micro-fuites. Et ces micro-fuites, évidemment, pourraient poser un problème. On les observerait plus tard en production et ça occasionnerait des problèmes. Donc c'est la raison pour laquelle il est demandé d'avoir ce niveau de propreté. Et comme vous voyez dans cet atelier, l'atelier est calme, l'atelier est extrêmement propre. C'est un atelier dans lequel on fait le montage et on va s'approcher d'un des postes de travail. Et je suis accompagné par Sylvain Louis, qui est le patron justement de toute la partie assemblage.
Bonjour Sylvain.
Bonjour. Alors le montage est composé de trois lignes produits. Une ligne pour les moteurs du troisième étage d'Ariane 5. Cette ligne comprend aussi l'ensemble des équipements de l'étage supérieur. La deuxième ligne produit les moteurs Vulcain et Vinci. Alors, le moteur Vulcain est actuellement le moteur de l'étage inférieur. Et la troisième ligne de montage est une partie sur les démonstrateurs aéronautiques, puisque nous travaillons pour les futurs démonstrateurs de l'aéronautique.
Alors ces moteurs, justement, on va les voir parce que l'assemblage final se fait ici.
Tout à fait.
Vous suivez ? Alors combien de temps faut-il pour faire un moteur, Sylvain ?
Alors la première étape du moteur, c'est ce qu'on appelle chez nous le moteur pour essai. Il faut 14 semaines d'assemblage pour amener le moteur conforme aux besoins de l'essai. Ensuite, ce moteur est envoyé en zone d'essai qui se trouve à 1 km du hall de montage pour suivre son essai de réception qui dure 3 semaines. Ensuite, ce moteur revient au hall de montage où il passe encore 3 semaines pour remettre en configuration vol.
Nous avons là un moteur HM7, donc le moteur de l'étage supérieur de la fusée Ariane 5 qui est en train d'être mis dans un conteneur. Ici, à Vernon, nous faisons les moteurs de l'étage supérieur tel que celui qui est devant nous ou le moteur de l'étage principal. Et après, les étages sont assemblés en Europe. L'étage principal est assemblé au Mureau. C'est là que nous envoyons le moteur Vulcain. Et l'étage supérieur est assemblé à Brême. C'est là que nous expédions le moteur HM7 qui va être mis en conteneur. Donc les moteurs sont assemblés avec les étages, c'est-à-dire avec les réservoirs, avec finalement les éléments du lanceur, de façon à faire des étages complets. Et ce sont ces étages qui, après, seront expédiés en Guyane pour faire l'assemblage de la fusée. Alors là, en ce moment, ce qu'on voit, c'est une passerelle qui est mise autour du conteneur et autour du moteur. L'objectif étant bien sûr de le mettre, c'est très délicat.
On le voit, ils installent la passerelle.
Ah, ils installent la passerelle, absolument. Donc, et le moteur qui va être descendu à la verticale dans le conteneur. Le moteur fait 2 mètres de haut, donc le conteneur est un peu plus grand. Il va être posé à l'intérieur. Le cylindre va être refermé de telle façon que tout soit parfaitement étanche. Et puis après, ce conteneur va partir pour l'usine de Brême au nord de l'Allemagne, l'usine d'Airbus Safran Launcher, où sera fait le montage, l'assemblage de l'étage supérieur cryotechnique qui sera utilisé pour un lancement d'Ariane, sans doute l'année prochaine. Sylvain, il va partir quand ?
Demain matin.
Demain matin. Et il arrivera à Brême ?
Vendredi matin, c'est un transport particulier qui emmène ce moteur.
Alors j'imagine que c'est un convoi un peu exceptionnel.
C'est pas un convoi exceptionnel en termes de taille, mais c'est un convoi qui n'a pas le droit de s'arrêter sur la route puisqu'il y aurait un risque qu'on puisse intervenir sur le moteur. Donc s'il y a deux chauffeurs, et le transport se fait de façon continue pour arriver jusqu'à sa destination finale.
On va voir le Vulcain maintenant ?
On a vu le moteur HM7, donc le moteur de l'étage supérieur. Nous allons maintenant rentrer dans le hall de montage du moteur Vulcain, c'est-à-dire le moteur de l'étage principal cryotechnique, qui est le plus gros moteur et le plus puissant de tous les moteurs cryotechniques fabriqués à Vernon. Le moteur Vulcain, c'est un moteur qui marche à l'hydrogène liquide et à l'oxygène liquide. Donc je laisse la parole à Sylvain.
Alors Sylvain. Alors là, on l'imagine, ce moteur est beaucoup plus gros en termes de poids par rapport à l'autre. 165 kg tout à l'heure, maintenant, c'est combien ?
2 tonnes 100. Et la hauteur du moteur fini, c'est 3,45 m.
Tout à l'heure, on a un petit moteur de 165 kg. Oui. Là, on passe carrément à 2 tonnes.
Un moteur de 2 tonnes. Il n'a pas non plus la même puissance, puisque c'est le moteur qui équipe l'étage principal donc du lanceur.
Alors, les pièces qu'on a sur ce moteur, elles viennent d'où ?
Le moteur Vulcain, c'est le patchwork européen où il y a différents éléments qui viennent de l'Europe pour composer ce moteur.
10 pays européens qui contribuent.
Tout à fait, la moitié en France, la moitié en Europe.
Une fois montés, les moteurs doivent être testés dans les conditions réelles, sur un banc d'essai.
Donc, Gilles Huard, responsable opération d'essai, ici sur le site d'essai de Vernon. Donc, nous nous trouvons actuellement devant le PF50, qui est une structure qui fait environ 50 mètres de haut. Et c'est une structure qui a été construite dans les années 80 pour le développement des moteurs Vulcain 1 et Vulcain 2, dans laquelle on va tester actuellement en production nos moteurs du premier étage du lanceur Ariane 5.
Donc on va rentrer dans le... Une opération délicate qui va durer au total 3 semaines et qui nécessite de très grosses mesures de sécurité, notamment à cause de l'utilisation très importante d'hydrogène. C'est pourquoi la zone est classée Céveso.
Donc on va descendre un escalier, on va descendre dans un bunker puisqu'on est protégé. Lorsqu'on fait les essais, la zone est évacuée sur environ 500 mètres dès qu'on met en mise en froid le banc et le moteur pour des raisons de sécurité. Donc on rentre dans un bunker dont les portes sont fermées pendant la chronologie et les murs font à peu près 1 mètre d'épaisseur, donc on est en sécurité dans ce bunker.
C'est vrai, bunker, hein, c'est pas du tout un mot comme ça pour rigoler. Hein.
Voilà. On a des structures assez lourdes justement pour gérer les problèmes de fuite et d'explosion qu'on pourrait avoir sur ce banc. Alors je vous rassure, ça n'est jamais arrivé, mais il faut toujours qu'on se mette dans des conditions de sécurité optimales. On entre. Donc ici, on est dans la salle de commande, PC de commande. Donc tous les essais sont pilotés bien sûr par ordinateur. Donc on va retrouver le pupitre du directeur de tir et ses assistants, un pupitre central pour la sécurité et le pupitre du fond qui gère les deux process, donc des deux côtés, côté hydrogène et côté oxygène du banc.
Donc du coup, on met plein de petits capteurs et...
Plein de petits capteurs, comme vous dites. C'est environ 600 mesures pour des phénomènes stationnaires, une centaine de mesures pour des phénomènes dynamiques et un millier de commandes pour pouvoir piloter ce banc. Actuellement, on a des opérations de maintenance sur le banc puisqu'on attend un moteur qui doit arriver la semaine prochaine.
Donc là, du coup, c'est comme si on était dans la salle Jupiter à Kourou. Hein.
Voilà, c'est une petite salle Jupiter. Voilà.
C'est parti. À tous de DT, attention pour lancement, temps des comptes final. Temps de décompte lancé. À 0, moins 3 minutes. Sécurité, tu passeras les états en fonction du temps de décompte. Régie vidéo, vous contrôlerez le bon enregistrement des caméras de sécurité.
H-2 minutes, pressurisation des réservoirs en cours.
Alors après être parti à Vernon pour voir comment sont fabriqués les moteurs de la fusée Ariane, notamment le moteur Vulcain, nous sommes désormais ici au Mureau, dans le 78, en région parisienne, où l'on fabrique l'étage principal de la fusée Ariane 5. Un étage principal qui fait jusqu'à 35 mètres de haut, dans lequel on va intégrer les moteurs, mais aussi les logiciels avec ce qu'on appelle le cerveau de la fusée qui va permettre de la guider durant sa phase de décollage, mais aussi de largage des satellites en orbite.
Donc ici, on est effectivement à une trentaine de kilomètres de Paris. On est sur le site principal d'intégration du lanceur Ariane 5, sur la zone industrielle principale pour l'activité Ariane.
Hervé Gilibert, directeur technique chez Airbus Safran Launcher.
Et on est juste devant le bâtiment, alors, qui est une véritable cathédrale, le bâtiment d'intégration de l'étage principal cryogénique d'Ariane 5. C'est une cathédrale au sens où, pour vous en donner l'idée, 50 mètres de haut, une cinquantaine de mètres de côté. Pour le cube principal, on pourrait y loger l'Arc de Triomphe, pour vous donner un peu l'idée de la taille de cette cathédrale. Alors en fait, c'est l'immeuble dans lequel on intègre l'étage principal, qui lui fait un petit peu plus de 30 mètres de haut. Quand à ces 30 mètres, vous rajoutez la hauteur nécessaire pour les ponts roulants qui vont transporter ces étages, les mettre à la verticale ou les coucher à l'horizontale lorsqu'on va vouloir les emmener en Guyane, vous avez besoin d'une cinquantaine de mètres de hauteur sous plafond.
Parce que ce qu'il faut bien comprendre, et ça on va le voir avec vous dans un instant, c'est qu'ici on assemble déjà quelques morceaux de la fusée.
On assemble l'étage le plus gros de la fusée Ariane, le plus gros en taille, donc une trentaine de mètres de haut pour 5,40 mètres de diamètre. C'est la partie la plus visible du lanceur en fait.
Et bien écoutez, on est parti avec vous, donc à l'intérieur de cette usine, on fait l'assemblage final. Alors Hervé, on a pris de la hauteur là.
Là, on est vraiment au niveau du bâtiment moteur. On peut voir l'intérieur de ce grand cône dans lequel s'intègrent différents équipements et canalisation de transmission de fluide et d'électricité. Ce cône, en fait, n'est pas qu'un simple cône, il est bourré d'appendices dans lesquels on a logé donc des organes de commande du moteur Vulcain. Et là, juste au-dessus de vous, vous avez ce qu'on appelle les prises de connexion largables, qui sont en fait les prises par lesquelles, au sol, en Guyane, nous alimentons le lanceur dans les heures qui précèdent le lancement. Donc on le remplit de l'hydrogène liquide, de l'oxygène liquide et de l'hélium, à travers donc cette prise de déconnexion largable, qui est un bijou technologique, qui sera arraché très proprement au moment du décollage du lanceur.
Alors là, on est vraiment au cœur du réacteur, Hervé. Hein.
Là, on est au cœur, on est en dessous du réacteur, effectivement.
Alors, on prend les escaliers, là.
Il est long.
Et on va monter à combien de mètres d'altitude, environ, Hervé? Là,
là on va monter à 7-8 mètres d'altitude.
Ah, tout de même, hein.
Et si vous avancez votre main, voilà, nous touchons le bas du lanceur, qui est le haut du bâtiment moteur que nous venons de quitter. Et ce que nous avons là devant nous, c'est l'étage principal, sa protection thermique. Vous voyez ici, protection thermique qui au toucher ressemble à du liège, alors c'est un petit peu de la même nature que le liège, qui est déposé alors qui est en épaisseur relativement fine et qui a une performance de protection thermique qui est absolument colossale, puisque vous pouvez imaginer qu'à cet endroit-là, à l'intérieur du réservoir, c'est-à-dire derrière 2 mm de tôle, vous avez de l'hydrogène liquide qui est à la température de 20 Kelvin, ce qui fait moins 250 degrés Celsius, alors qu'à l'extérieur, là où nous sommes, quand on est en Guyane, il fait 35 degrés, encore quand on est à l'ombre. Donc on se retrouve avec une amplitude de 280-290 degrés d'écart entre l'intérieur et l'extérieur, et ça se joue sur moins de 5 mm au total d'épaisseur.
Alors là, la fusée est vraiment à la verticale, comme si on allait la lancer. Hein.
Oui, tout à fait. On fait l'intégration de cet étage, et de tous nos étages d'ailleurs, à la verticale, dans la position de vol. On les couche ensuite pour les mettre dans un container, et on les emporte évidemment à l'horizontale en Guyane.
On va atteindre combien de mètres, là, Hervé?
Là, on va être à plus de 25 mètres d'altitude maintenant.
Ouais, donc l'escalier est très raide, hein, l'escalier métallique, que l'on continue de monter pour atteindre les différents éléments de la fusée qui sont assemblés ici au Muro.
Là, nous arrivons en fait au sommet de la partie réservoir. Lorsque nous étions en bas, quand nous avons touché la protection thermique tout à l'heure, nous étions dans la zone qui représente l'essentiel de l'étage. C'est le réservoir hydrogène qui représente 80% de la hauteur de l'étage. Et là, nous sommes maintenant au-dessus et au niveau de la zone de stockage d'oxygène à plus haute température, puisque c'est de l'ordre de 80 Kelvin, ce qui fait moins 170 degrés Celsius. Et cette zone est la zone de transition vers la jupe, ce qu'on appelle la jupe avant du lanceur, qui est en fait un cylindre qui a une fonction essentiellement mécanique qui est de supporter l'étage supérieur et les charges utiles qui seront encore au-dessus.
Alors, pour prendre l'exemple d'un immeuble, sur un immeuble, on a des fondations qui permettent de maintenir l'immeuble en place. Là, le problème, c'est qu'il n'y a pas de fondation pour la fusée. Hein.
Non, alors, il n'y a pas de fondation. La fusée, sur son pas de tir, c'est assez impressionnant, est simplement posée sur le sol. Elle n'est même pas attachée au sol. Il n'y a pas de système de clampage. Et donc, nous prêtons attention à ce que les conditions météo, mais la Guyane est assez favorable pour ça, ne soient pas telles qu'il puisse y avoir du vent trop fort sur un lanceur qui ne serait pas attaché, alors qu'il ne serait pas encore rempli de ses ergols.
Une Ariane sans carburant, et avec carburant, c'est combien de tonnes ?
Alors avec carburant, c'est 780 tonnes. Sans carburant, on descend à 580 tonnes, mais avec une portance au vent qui est très importante.
Pour bien comprendre, en termes de temps, la partie qu'on voit ici, qui est l'une des parties centrales, oui. Pratiquement, la fusée est pratiquement terminée ici, mais combien de temps ça prend pour monter tout ce qu'on voit aujourd'hui ?
Donc pour monter tout ce qu'on voit ici aujourd'hui dans ce hall d'intégration, c'est un cycle de l'ordre de 8 mois, entre le démarrage des opérations pour un étage donné, premières opérations sur le bâtiment-moteur qu'on a vu tout à l'heure, jusqu'à la finalisation complète de l'étage avec donc le moteur qui est positionné en dessous, le bâtiment-moteur, les réservoirs, puis la jupe avant au-dessus, 8 mois pour réaliser ces intégrations et l'ensemble des contrôles de bon fonctionnement que l'on doit réaliser ici. On intègre le moteur et on vérifie un certain nombre d'organes avant même de l'envoyer en Guyane pour ne pas avoir à découvrir de mauvaises surprises un peu plus tard en Guyane.
C'est-à-dire qu'au total, entre la fabrication des moteurs qu'on a vu à Vernon, il faut là 24 semaines, encore ici 8 mois, après le transport, l'assemblage final et le lancement, il faut combien de temps in fine ?
Alors on est sur 2 ans à 2 ans et demi pour cet étage principal. Et il existe des composantes sur le lanceur qui sont les enveloppes métalliques des deux boosters sur le côté. Ces enveloppes métalliques, elles, sont produites, les ébauches de ces enveloppes sont produites plus de 3 ans avant le lancement. Donc 2 ans et demi pour l'étage principal et un peu plus de 3 ans pour certaines parties qui sont encore plus longues à produire.
Ça veut dire que la fusée qu'on va voir décoller la semaine prochaine, entre l'état zéro et l'état final où elle va décoller, il y a eu 3 ans qui seront passés ?
Oui, certaines de ces pièces majeures ont démarré leur vie en 2012, fin 2012.
Hervé, on va continuer de monter pour arriver en haut de la fusée maintenant.
Donc on est tout en haut. Là, on est au-dessus de la bride d'assemblage de cet étage principal cryogénique avec l'étage supérieur qui viendra au-dessus. Et vous le voyez ici, on a un assemblage tout simplement par liaison boulonnée entre les deux étages, entre les deux brides, avec
un long
de diamètre, en l'occurrence 8 mm, qui tiendront en fait les deux étages l'un à l'autre.
Donc là, on est à combien de mètres de haut là ?
Là, on est maintenant à 35 mètres de haut. Le plafond de la cathédrale est plus qu'à une douzaine de mètres au-dessus de notre tête maintenant.
Dès que l'étage principal est monté, il doit être mis dans un conteneur. Une opération très délicate, car le morceau de la fusée est lui placé à la verticale et doit être couché à l'horizontale dans un conteneur dédié. Un conteneur spécial, pressurisé, qui sera ensuite posé sur une barge, qui sera emmené au Havre via la Seine avant son transfert pour la Guyane.
Bonjour, je suis Pierre Villegrain. Je suis ce qu'on appelle le delivery manager, donc le chef de projet de la production Ariane 5.
Alors, on va voir un peu comment se passe le, entre guillemets, quand on sort la fusée, on est sur la barge, et donc on va voir cette grande porte métallique qui va s'ouvrir. Hein, ici.
Tout à fait, voilà. Donc là, on a le conteneur qui est derrière nous, hein, ça y est, on a mis l'étage à l'horizontale. On a fermé le conteneur il est pressurisé, il est contrôlé en pression, en hygrométrie, etc. pendant toute la durée du trajet pour s'assurer que l'étage n'a rien subi. Et ensuite, une fois que c'est fait, ce conteneur, il a 2 tracteurs qui le soulèvent et qui servent à le déplacer. Donc c'est cet énorme conteneur de 35 mètres et on va le suivre.
Alors vous disiez pressurisé, pour quelle raison il faut le pressuriser ?
Alors pour s'assurer qu'on maintienne bien en permanence l'étage principal dans les bonnes conditions de pression, de température et d'humidité pour qu'il ne s'abîme pas pendant le trajet. Il faut bien se dire que cet étage énorme qui fait 35 mètres, son épaisseur au plus fin, c'est 1,75 mm d'aluminium. 1,75 mm pour tenir une structure qui fait 35 mètres de hauteur. Donc c'est le même principe qu'une canette de soda, si vous voulez. Elle est en permanence pressurisée, et une légère surpression de gaz, parce que sinon, elle s'écraserait sous son propre poids, tellement elle est fine. Donc le lanceur, l'étage, il est en permanence pressurisé de gaz à l'intérieur de l'étage, pour pas qu'il s'écrase sous son propre poids.
On y va ?
Allons-y.
Alors là, on a le volet qui s'ouvre, et c'est...
Tout à fait.
Expliquez-nous.
On a cet énorme volet roulant qui s'ouvre, qui va nous permettre de sortir cet étage en dehors du bâtiment d'intégration et d'aller vers les quais de Seine, jusqu'au quai Magellan, qui est le port intérieur du site des Mureaux.
Ah voilà, c'est comme un grand garage qui s'ouvre, hein, en fait, finalement, là, on sort du garage.
Exactement.
Et on sent l'air frais, on n'est plus à l'intérieur de l'usine.
Voilà.
Donc on arrive sur les quais, on a la Seine.
On arrive sur les quais, donc là, on est devant la Seine. Et donc, on va entamer une manœuvre effectivement assez lourde, hein, parce que c'est ce qu'on appelle un convoi autoporté. C'est-à-dire que sur chacun de ces tracteurs, il y a un énorme vérin hydraulique. Et des deux côtés, on va soulever le conteneur de l'EPC. Et donc, c'est vraiment uniquement les deux tracteurs aux deux extrémités qui portent. Le conteneur de l'EPC lui-même n'a pas de roue, il ne touche pas le sol. On est en train de suivre le tracteur pour arriver sur la barge qui va l'emmener au Havre en 2 jours. Et ensuite, une quinzaine de jours pour arriver jusqu'à Kourou. Sur le fameux porte-conteneur, donc le Toucan ou le Colibri.
Après 12 jours de mer, l'étage principal arrive à Kourou pour l'assemblage final d'Ariane 5 au CSG, le centre spatial guyanais. C'est sur ce site, grand comme 6 fois Paris, que les autres tronçons de la fusée arrivent et que les satellites sont installés. Un site qui accueille aussi les autres lanceurs européens, comme l'italien Vega ou le russe Soyuz. Car si Ariane 5 reste le leader mondial des lanceurs, c'est le fruit d'une étroite collaboration avec l'ESA, l'agence spatiale européenne. C'est elle qui, via ses 22 pays membres, finance et est à l'origine d'une grande partie des projets spatiaux européens, comme par exemple Galileo, qui sera le concurrent du GPS. Joël Donadel, représentant de l'agence spatiale européenne à Kourou.
L'ESA, c'est l'entité qui permet à l'Europe d'être autonome et d'avoir un accès autonome à l'espace. Donc, les financements viennent de l'Europe, des États membres de l'Europe.
Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu les différents programmes ?
Alors, naturellement, il y a les programmes d'observation de la Terre, les programmes de navigation, dont le programme le plus emblématique est Galileo. Il y a les programmes scientifiques, dont on a parlé longtemps et on parlera encore de Rosetta. Rosetta a été lancé il y a 10 ans de Kourou. C'est un programme emblématique de l'Agence spatiale européenne. Il y a les programmes de vol habité. Il y a les lanceurs, bien évidemment. Il y a également le maintien en condition opérationnelle du Centre spatial guyanais, donc qui est le moyen pour l'Europe d'accéder à l'espace. Pour pouvoir être un pays, voire un continent indépendant, il faut avoir une base de lancement de façon et des lanceurs et des véhicules et des expériences pour pouvoir être indépendant et mener une politique qui est librement choisie par les États membres.
Alors, ce qu'il faut expliquer aussi, la particularité, c'est qu'on a 3 lanceurs différents qui cohabitent entre eux.
Oui, alors ce sont 3 lanceurs qui sont très différents, bien évidemment. Il y a notre fleuron, notre cheval de bataille qui est Ariane 5. Ariane 5, donc, c'est le lanceur lourd de l'Europe qui permet de lancer 2 satellites en orbite géostationnaire. Donc, il faut beaucoup de puissance. Ariane 5, c'est le leader mondial des lanceurs qui permet de capter plus de la moitié du marché des satellites commerciaux. Ensuite, il y a un petit lanceur européen, Vega, qui permet de lancer des petites charges utiles à des orbites relativement peu éloignées de la Terre. Mais enfin, c'est 1000 kg à 1500 km, grosso modo. Et puis, il y a Soyuz. Alors, le Soyuz, dans le cadre d'une coopération avec la Russie, il est opérationnel depuis fin 2011. Et pour l'instant, on l'a essentiellement destiné à la mise en place des satellites Galileo. Et nous faisons en moyenne 2 lancements par an avec cette fusée russe. Alors, ces lancements, bien sûr, sont effectués toujours par Arianespace, qui est l'entreprise de droit privé qui met en œuvre, dans le cadre d'un accord avec l'Agence spatiale européenne, fait l'exploitation de ces 3 lanceurs européens.
Aujourd'hui, il y a une grande concurrence, mais on voit aussi qu'il y a une forte demande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va envoyer de plus en plus de satellites, que ce soit dans le militaire ou le civil.
Bah oui, c'est l'évolution des technologies. Essayer de vivre sans votre téléphone portable ou sans la télé directe, c'est quasiment impossible, ou sans carte bleue. Aujourd'hui, on estime que si on coupait brutalement le spatial, le monde économique s'arrêterait.
Cette année, 6 Ariane 5 ont été lancés avec succès. Nous avons pu assister aux préparatifs du dernier lancement de l'année à J-2. Deux satellites seront lancés, un pour le compte d'ISRO, l'agence spatiale indienne, et le second pour l'opérateur saoudien Arabsat, dont le satellite a été fabriqué par Airbus Defence and Space. Mais avant notre venue, près de 3 mois ont été nécessaires pour réaliser l'assemblage final d'Ariane 5. Une période pendant laquelle sont montés l'étage supérieur de la fusée et les boosters chargés de 700 tonnes de poudre au BIL, le bâtiment intégration lanceur. Puis les derniers éléments comme la coiffe, les satellites et le cerveau de la fusée qui est l'ordinateur de bord sont installés au BAF, le bâtiment d'assemblage final. Alors nous sommes désormais ici à Kourou, devant ce qu'on appelle le BAF, un immeuble gigantesque de 100 mètres de haut dans lequel... Et pour l'instant, Ariane 5, là on a fait l'assemblage final. C'est donc un très gros camion qu'on appelle Titan, qui va tracter cette fusée Ariane 5 sur des rails. Ces rails un peu comme pour un train, une opération très délicate, où le camion va rouler à peine à 1 voire 2 km/h pour emmener la fusée jusqu'à son pas de tir. Il faudra compter environ 45 minutes pour le transfert entre le BAF et le pas de tir, d'où va décoller Ariane 5 demain soir.
Donc, je m'appelle Dorothée, je suis ingénieure pour Ariane Espace, je suis ingénieure mécanique fluide, et voilà, puis aujourd'hui, on prépare le transfert.
L'opération de tractage va bientôt commencer, il y a un peu de retard, c'est normal, il y a tellement de contraintes techniques. Qu'est-ce qui est le plus délicat dans cette phase de tractage pour emmener la fusée à son pas de tir ?
Le plus délicat, c'est de respecter en fait les contraintes qu'on peut avoir au sein des opérations, c'est-à-dire que parfois... on ne peut pas lancer certaines opérations si d'autres ne sont pas terminées, en fait. Donc il faut toujours garder une visibilité sur l'avancement des opérations, anticiper éventuellement certaines choses si ça nous fait gagner un peu de temps, parce que le but aussi, c'est d'essayer de tenir le planning et d'être à l'heure et d'arriver à gérer, même s'il y a des imprévus, des aléas et des problèmes comme on a eu ce matin, en fait.
C'était quoi les problèmes ce matin?
On a eu quelques petits problèmes côté climatisation et quelques petits problèmes au niveau de la table.
C'est un problème qui arrive souvent, j'imagine. On a une technologie tellement complexe que c'est un peu normal qu'on ait ce genre de problème.
Oui, pourtant, on l'entretient bien, mais c'est vrai qu'elle nous réserve toujours des surprises. Enfin voilà, c'est beaucoup de gestion d'aléas en fait, en temps réel.
Alors là, j'imagine que la concentration est optimale. Hein.
Oui.
Alors nous sommes ici sur ce qu'on appelle le carbet tangara. Le tangara, c'est un oiseau guyanais. Nous avons pris un peu de hauteur, nous sommes montés à une dizaine de mètres de hauteur afin de pouvoir observer cette fusée Ariane le plus près possible. C'est désormais une réalité, elle est sortie de son centre d'assemblage et désormais on va la préparer au lancement qui est ce soir à 18h34. Il y aura deux satellites qui seront envoyés dans l'atmosphère, dont un satellite indien. Et donc cette fusée, elle est juste en face de nous, à 600 mètres, on la voit dressée. Il ne manque plus que les pleins d'oxygène et d'hydrogène qui vont intervenir dans l'après-midi jusqu'au dernier moment. Alors nous allons quitter ce site Tangara, où nous voyons la fusée juste en face de nous, hissée sur son pas de tir, pour nous rendre dans ce qu'on appelle la salle de contrôle. C'est là que l'on va faire les dernières vérifications tout au long de l'après-midi, avant le lancement final prévu ce soir à 18h34.
Alors je suis Louis Laurent, directeur des programmes chez Ariane Espace.
Alors Louis, là on est dans une salle très particulière, c'est ce qu'on appelle la salle de lancement. C'est un peu le cockpit de la fusée, il y a plein d'écrans derrière nous. C'est un immeuble très particulier qui est aussi blindé pour les mesures de sécurité. Alors on le voit, il y a beaucoup de concentration, on s'agite derrière tous ces écrans. On est quelques heures du lancement, 18h34. Qu'est-ce qu'on vérifie en ce moment même?
Actuellement, donc on prépare la zone de lancement. On a encore des opérateurs qui sont sur la zone de lancement. Ils vont être évacués. Et la prochaine grosse opération, ça va être le remplissage des 4 réservoirs cryotechniques du lanceur qui vont se dérouler entre moins 4 heures et moins 2 heures avant le lancement.
Alors ce qui est impressionnant, c'est qu'ici on contrôle tout à distance. On sait exactement au centimètre près ce qui se passe dans la fusée.
Effectivement, on contrôle le lanceur non seulement le jour de la chronologie comme aujourd'hui, mais en fait le lanceur depuis le début de la campagne d'intégration du lanceur est contrôlé à partir de ses ordinateurs. Et donc on va suivre la vie et la campagne de lancement pendant un mois et demi, directement à partir de cette salle.
Alors à cette heure-ci, qu'est-ce qu'on voit sur les écrans là ?
Alors là, on mesure des capteurs de pression, des capteurs de température. On surveille que l'ensemble des équipements sont dans des états normaux. Les équipements électriques ont été démarrés très tôt ce matin. On a vérifié qu'ils étaient en bon état de fonctionnement. Et là, on prépare donc la zone de lancement et le lanceur pour les remplissages.
Nous sommes le jour J, à quelques heures du lancement. La base devient alors un véritable camp retranché. Les routes près de la zone de tir sont littéralement bouclées sur plusieurs kilomètres par des barrages de police, de gendarmerie et de l'armée. Impossible de rentrer sans montrer patte blanche. Le site, qui est classé défense, bénéficie d'une surveillance aérienne et maritime. Un dispositif exceptionnel mais nécessaire. Car une fois sur son pas de tir, Ariane peut devenir une cible.
Je suis Bernard Chemoul, directeur du centre spatial guyanais au CNES.
Un centre très étendu, hein ?
Oui, exactement, c'est un centre très étendu, fait de savanes et de forêts. On est en pleine forêt Amazonie et le centre spatial fait 700 km². Vous imaginez, c'est 6 fois la surface de Paris. On va vers notre complexe de sécurité. Alors, un badge. Bonjour. Alors ici, donc, c'est le PC de sécurité, et là vous voyez que nous avons réuni toutes les composantes qui gèrent la sécurité. Entre l'armée, alors l'armée de l'air, la gendarmerie qui gère les flux, nous avons les pompiers de Paris, et puis la sauvegarde, c'est les gens du CNES qui gèrent la sécurité industrielle. Voilà, et donc vous voyez que sur les écrans, les accès sont surveillés, le lanceur est surveillé. Ici, il y a aussi l'état de la base avec tous les pavés qui sont verts. Donc ça veut dire que tout se passe bien sur tous les systèmes de la base. Et ils déroulent leurs procédures de sécurité. À un moment donné, les routes seront fermées, les zones seront évacuées. Tout ça, ça sera contrôlé d'ici. Donc ici, vous êtes dans le bureau de coordination de la sauvegarde. Vous voyez ce grand mur d'image où on surveille toutes les zones à risque. Vous avez d'ailleurs même un plan avec les cercles de danger autour du pas de tir qui visualise les zones de plus grand danger autour du pas de tir.
Alors, ce qu'il faut expliquer, c'est que là, on est à quelques heures du lancement. On est en train de faire les pleins d'hydrogène et d'oxygène.
Effectivement, on est à 4h30, 4h avant le lancement, on commence à remplir la fusée. Oui.
Et ça, c'est une opération délicate qui est très sensible, hein. C'est les produits dangereux.
Oui. Absolument, c'est extrêmement dangereux. C'est pour ça que toute la zone autour du pâtir est interdite. Il n'y a personne, strictement personne, autour du lanceur pendant ces phases-là.
C'est la raison pour laquelle on n'y est pas, d'ailleurs, on est ici. Il faut expliquer que le plein se fait justement à distance par des tuyaux.
Oui.
C'est pas comme dans un avion à l'aéroport avec des pompistes qui viennent mettre le kérosène.
Non, tout est branché avant et puis ensuite on ouvre les vannes à distance. Le centre de contrôle qui fait ça se trouve à proximité du pâtir, à 1,2 km du pâtir. Nous, là, nous sommes à 15 km du pâtir et nous surveillons la sécurité générale de toute la base, ici.
Nous sommes en route vers le site Toucan, qui se situe à 5 km 1 de la zone de lancement.
Pour assister au lancement, nous nous rendons sur le site de Toucan. Ce site, qui est en plein air, est réservé uniquement aux clients d'Ariane et une partie des salariés. Il offre une vue imprenable sur le pas de tir. C'est l'endroit le plus proche d'où l'on peut assister à un lancement sans être protégé par un bunker.
Bonsoir, j'ai le plaisir de vous accueillir ce soir au Centre Spatial Guyanais, le port spatial de l'Europe.
Des grands écrans géants retransmettent en direct les dernières opérations de la salle Jupiter, d'où sera lancé le décompte final par le DDO, le directeur des opérations. Et c'est en compagnie de Pierre Chadouteau, qui habituellement est directeur des opérations, que nous allons vivre ce lancement. Alors Pierre, donc ici à Toucan, sur ce site d'observation privilégié afin de pouvoir voir le lancement au mieux. On a la fusée qui est au loin, elle est environ à 4,5 km de nous. On voit juste un tout petit bout, l'équivalent d'une phalange, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça à peu près, et qui se dessine sur l'horizon. Effectivement, il n'est pas bien haut. Il est sur son pas de tir, entouré par ses 4 pylônes de protection foudre. Et là devant nous, on a donc une trouée dans la forêt guyanaise qui nous permet d'avoir une vue directe sur ce pas de tir. Alors effectivement, on n'est pas loin, on est à 4,5 km. On va vivre ce lancement autant du point de vue visuel, sonore, que dans nos tripes, parce que les vibrations vont nous arriver par le sol jusqu'à nous.
Et là maintenant, on arrive dans le dur. Là, vous qui êtes DDO, qui habituellement êtes dans cette salle Jupiter où se passe le décompte final, qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là?
C'est vraiment les dernières minutes où tout le monde est concentré. Il y a un silence affairé dans cette salle. C'est les dernières minutes où on fait les derniers ajustements, les dernières communications avec le centre lanceur.
grâce notamment à ces 24
il est bientôt 23 minutes. Alors là, normalement, on va faire encore un check météo. C'est le dernier. Bon, aujourd'hui, si on regarde le ciel autour de nous, on peut dire au moins que du point de vue de la météo basse couche, c'est calme, même très calme. Toute l'activité diurne commence à s'apaiser avec le coucher du soleil. Alors maintenant, le pas de tir est éclairé. On voit la fusée qui se reflète blanche sur un fond de ciel qui devient de plus en plus gris. Et les grillons qui commencent à s'affoler et qui nous font une belle sérénade. On va arriver là dans les dernières minutes. Là. Ah oui, les pressions qui montent. Hein,
Mais nous, on commence à avoir la pression là.
On n'est pas derrière un écran, mais déjà, vous avez l'événement qui commence à peser sur vous là. Et à Géro, au moins une minute, vous allez avoir le DDO qui va nous dire à tous de DDO, attention, lancement dans une minute. Et après, il vous dira, attention, à tous de DDO, attention pour le décompte final. Et là, il fera son décompte jusqu'à son top final et qui lancera l'allumage du moteur Vulcain. 7 secondes après, si les choses se passent bien, les accélérateurs port à poudre seront allumés et le lanceur décollera pratiquement instantanément.
Alors attention, dans moins d'une minute, on va assister en direct ici au lancement de cette fusée Ariane 5 pour la mission AV-227. Voilà, le décollage, le lancement est imminent. Et là, vous allez vivre un moment exceptionnel car on va sentir la Terre trembler sous nous. Je vous rappelle qu'une fusée Ariane 5, en termes de puissance, est l'équivalent d'une centrale nucléaire.
À tous de DDO, attention pour les décomptes final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage EAP et décollage.
Vous écoutez le magazine de la rédaction sur France Culture dans le cœur d'Ariane 5, reportage signé Hakim Kasmi, réalisé par Annie Bro. Et à la prise de son, il y avait Jérémy Thuile à vos côtés, Hakim. On va commencer à poser une première question. Je rappelle nos deux invités, donc Alain Charmeau, qui est le président de ASL, l'entreprise qui conçoit les fusées Ariane 5, et Rachel Villain, qui est consultante à Euroconsult. Monsieur Charmeau, d'abord, on a entendu ce succès, ce lancement, disons, successful d'Ariane 5. 69 lancements d'affilée réussis. La fiabilité, c'est évidemment crucial pour Ariane, pour un lanceur. Mais c'est aussi une fusée qui coûte quand même cher. Hakim a un peu évoqué tout à l'heure en introduction les concurrents qui arrivent sur le marché aujourd'hui. ASL, la compagnie que vous dirigez, a pour projet phare de lancer une Ariane 6 dans 5 ans. Comment allez-vous réussir le pari de faire diminuer finalement les coûts de production d'Ariane?
Tout d'abord, merci à Kim pour ce magnifique reportage. Je crois qu'on a bien senti l'émotion lors d'un tir. Et après 69 succès consécutifs, à chaque fois, même quand c'est enregistré, l'émotion est encore là. À chaque fois, je repense effectivement à la compétence de tous les employés qui nous permettent d'assister à ces événements fabuleux, sachant que, comme ça a été souligné, un lanceur est quelque chose de très complexe et il nous faut beaucoup de personnes qui s'appliquent professionnellement à bien faire leur métier avec toute la qualité qui convient pour arriver au succès.
Oui. Uniquement dans votre entreprise, je crois qu'il y a 8000 salariés, mais c'est uniquement à
Airbus,
SL.
Airbus, voilà, c'est ça, ce sera 8000 personnes.
8000 personnes, sans compter le CNES dont on parlait tout à l'heure, sur la base de Kourou, etc.
Absolument, oui. Et les autres industriels français, et les autres industriels européens qui tous contribuent à ce magnifique succès. Donc pour revenir à votre question, tout d'abord, il faut rappeler qu'Ariane 5 a été conçu il y a 30 ans. Donc quand on compare effectivement le prix d'Ariane 5 et le prix futur d'Ariane 6, il faut imaginer qu'il y a 30 ans d'écart entre les deux lanceurs, même si nous continuons de fabriquer Ariane 5 encore pour quelques années. Et nous avons bien évidemment beaucoup de pistes pour avoir un lanceur Ariane 6 qui fasse à peu près les mêmes performances qu'Ariane 5 aujourd'hui et qui soit effectivement 30 ou 40% moins cher qu'Ariane 5. Tout d'abord, puisque c'est un petit peu la mode, on va parler d'imprimante 3D. Et donc nous allons utiliser ces technologies de fabrication moderne. Nous avons réalisé les premières pièces d'Ariane 6 en imprimante 3D. On les a d'ailleurs testées vendredi dernier, il y a exactement une semaine. Ouais. Et ça marche. Donc nous aurons beaucoup de pièces en imprimante 3D sur
Ariane 6. Je vais donner la parole à Hakim Kasmi, mais juste sur l'imprimante 3D, qu'est-ce que ça a de si différent d'une autre technique de fabrication? C'est juste extrêmement simple, c'est ça?
Alors c'est extrêmement simple et puis surtout on ne consomme que la matière qui est nécessaire à réaliser la pièce. Alors D'accord. que comme Hakim l'a vu dans nos ateliers, quand nous avons des tôles qui à la fin font une épaisseur d'1,6 mm, en fait nous partons de tôles qui font plusieurs centimètres d'épais et toute cette matière pour descendre de plusieurs centimètres à 1,6 mm est enlevée et perdue.
C'est gâché, oui, en quelque sorte.
C'est gâché à la fois le prix de la matière plus le temps passé pour effectivement enlever cette matière et aboutir à la pièce finale.
Hakim.
Alors Alain Chabon, on en parle à 30 à 40% moins cher aujourd'hui. On parlait de la 3D, mais ce qu'il faut expliquer, c'est que la bataille se fait sur le poids. Vous le disiez aujourd'hui, la fusée de Ariane 5 a été faite il y a 30 ans. En quoi aujourd'hui, on a des nouvelles technologies, on a franchi un gap? Qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui, on pourra faire une fusée moins chère aujourd'hui en termes d'évolution? On parle de la 3D, ça va notamment permettre de faire des pièces qu'on ne pouvait pas faire avant, par exemple.
Absolument. Donc ça c'est une des façons, effectivement, de réduire les prix. Nous allons travailler bien sûr sur la conception du lanceur, c'est-à-dire la définition, le dessin du lanceur, de façon à optimiser ce dessin pour faire des pièces qui soient plus faciles à fabriquer. Nous avons des méthodes évidemment de conception aujourd'hui modernes, en utilisant les outils numériques, en utilisant la modélisation 3D, ce que vous avez sur vos écrans d'ordinateur, qui n'existait pas il y a 30 ans. Donc nous allons utiliser ces méthodes pour concevoir un lanceur plus simple. Nous allons aussi simplifier l'organisation industrielle. Qui a été très éparpillée, si je puis dire, en Europe. Nous allons la rationaliser. Tous les pays européens vont continuer de participer, mais dans une organisation qui sera rationalisée. Par exemple, nous allons standardiser. Aujourd'hui, je vais prendre juste l'exemple des deux gros boosters d'Ariane 5. Ces deux gros boosters sont très compliqués à réaliser en plusieurs morceaux. Demain, les boosters d'Ariane 6, ce sera une seule structure, un seul chargement en propergol, ce qui fournit l'énergie pour faire décoller le moteur, une seule tuyère et un seul lieu d'assemblage final en Guyane, au lieu d'une organisation complexe et de morceaux beaucoup plus nombreux aujourd'hui sur Ariane 5.
Quand vous dites booster, on va passer la parole à Madame Villain. Quand vous dites booster, ce sont les moteurs, c'est bien ça, hein, aujourd'hui, le Vulcain et puis l'autre dont parlait...
Non, les moteurs latéraux, si les boosters sont les
tous deux. Tous les moteurs, d'accord, c'est très technique, hein, bien sûr. Rachel Villain, justement les concurrents d'Ariane 5 comme SpaceX, qui nous vient des États-Unis, ont l'air beaucoup plus simple, peut-être, d'aspect de fabrication. Enfin, le site est très intégré, dit-on.
Oui, c'est là où ça rejoint ce que disait M. Charmeau, c'est-à-dire sur le fait qu'une production intégrée sur un même site, la conception même et la production sur le même site, et également le fait d'un recours à une sous-traitance avec des produits standards. Donc on revient, enfin c'est les mêmes principes qui sont valables dans toutes les économies où les économies d'échelle justement jouent à fond, sachant qu'on est dans un secteur de petite série. Donc il faut maximiser les économies d'échelle, donc ça veut dire il faut tirer beaucoup de lanceurs de qualité constante avec des sous-systèmes qui sont standardisés. Donc c'est les orientations prises par la nouvelle structure industrielle européenne.
Une question d'Hakim.
Alors, Rachel Bilan, ce qu'il faut expliquer, c'est comment SpaceX, hein, qui n'est pas un lanceur historique comme Ariane, a-t-il pu faire pour avoir un tel niveau de technologie et proposer un produit 50% moins cher?
Il faut savoir que le développement de SpaceX, il est fait sur la commande de la NASA. La NASA, elle avait besoin d'un véhicule nouveau pour pouvoir accéder en orbite basse. Et il y a un principe aux États-Unis qui est donc qu'à partir du moment où le secteur privé peut faire des choses, il ne fait pas, le secteur public ne fait pas concurrence au secteur privé. Donc à partir du moment où la NASA a décidé d'aider au développement de nouveaux lanceurs, il n'y a pas que SpaceX, il y a une autre société américaine qui s'appelle Orbital ATK qui a développé aussi une fusée pour aller ravitailler la station spatiale. Donc c'est à partir de ce contrat de développement, c'est pas monsieur Elon Musk qui a payé 100% des coûts de développement.
Même s'il est milliardaire.
Voilà.
Je dis ça en blaguant, mais oui.
Et qui a de la réserve. Il n'a pas payé 100% des coûts de développement du lanceur. Il y a eu du support technique qu'on appelle en nature, en fait, de la NASA. Et il y a aussi le contrat qui est donc une avance, un achat de service. La NASA n'a pas acheté un lanceur, la NASA a acheté des prestations de services de desserte de la station spatiale.
Ça nous ramène quand même à ASL, Alain Charmeau, parce que vous êtes maintenant privé, enfin je pense qu'autrefois le CNES, l'État avait peut-être plus d'emprise sur vous. Est-ce que ça va changer quelque chose? Parce qu'on a l'impression que le modèle américain, c'est effectivement donner un peu d'argent à des entreprises privées, mais ensuite elles sont certaines de pouvoir lancer des satellites, des fusées pour le compte de la NASA, entre autres. Alors que chez nous, c'est vraiment le public qui jusque-là investissait massivement dans des programmes sans forcément peut-être avoir, je ne sais pas, vous allez peut-être me corriger, hein, les clients derrière.
Non, vous avez tout à fait raison. Et c'était vrai dans tous les pays du monde, aux États-Unis, en Russie, en Chine, comme en Europe. Comme je le disais tout à l'heure, Ariane 5 était conçu il y a une trentaine d'années. C'était la course à l'espace, c'était la course au vol habité. Ariane 5 était conçu pour faire du vol habité, même si ensuite les évolutions ont fait que nous n'avons pas envoyé d'astronautes avec Ariane 5. Donc cette conception était basée dans cet état d'esprit, dans ces objectifs-là, qui étaient des objectifs de course à la performance, de course à la puissance, de course à la fiabilité pour le vol habité. Là où SpaceX apporte une innovation, mais c'est lui, il a pris une certaine initiative, c'est que maintenant nous sommes beaucoup plus dans un marché commercial. Effectivement, il faut aller chercher les commandes sur un marché qui devient de plus en plus commercial, il ne l'est pas totalement. Deuxième élément, dans votre question, une différence fondamentale entre l'Europe et les autres pays, c'est l'étroitesse de notre marché gouvernemental. Depuis une dizaine d'années, il y a à peu près 90 lancements dans le monde par an, lancements de fusées de taille significative dans le monde par an, et il n'y a que 5 ou 6 Ariane, tout simplement parce que 80% du marché des lancements sont des marchés gouvernementaux, captifs, qui ne sont accessibles qu'à l'industriel du gouvernement concerné et pas à d'autres industriels. Demain, ce panorama va changer. Il y aura beaucoup plus de lancements à des fins commerciales, notamment pour l'Internet, avec la nouvelle économie américaine. Et nous nous battons sur ce segment-là. Ariane 5 aujourd'hui, avec toute la réussite que nous connaissons grâce à Ariane Espace et aux produits Ariane 5, demain, la cible d'Ariane 6, c'est effectivement ce marché commercial.
Hakim Kasmi.
Alors, on le voit aujourd'hui, hein, c'est la guerre de la compétition, mais il y a aussi les Indiens qui font des satellites qui coûtent moins cher que les nôtres. Il y a aussi la notion de compétitivité, qu'on le veuille ou non. Même si nous, en Europe, nous avons le savoir-faire, la notion de coût reste très importante. Ça coûte moins cher de payer un ingénieur indien qu'un ingénieur français. Idem pour un ouvrier sur les sites d'assemblage des satellites, par exemple.
Et idem pour les Chinois. Oui,
absolument. Mais nous avons d'autres avantages en Europe. Moi, j'ai la chance de bénéficier, pour faire des lanceurs, d'un tissu industriel européen qui est qualifié, puisque nous avons 69 lancements consécutifs. Les Chinois sont extrêmement compétents également, mais ne sont pas sur le marché commercial. Les Indiens n'en sont pas encore là. Donc moi, j'ai l'énorme chance, y compris par rapport à SpaceX, d'avoir une base industrielle faite de compétences qui, certes, ne sont pas toutes intégrées dans Airbus Safran Launchers, mais tant mieux. Moi, j'utilise le meilleur industriel européen compétent en électronique dans tel endroit, en structure composite dans tel autre endroit, etc. Nous avons cette base de compétences qui est effectivement inégalable. Ouais. Et puis, nous avons des idées, nous avons des capacités d'investissement dans des moyens industriels et nous allons focaliser beaucoup d'argent, beaucoup d'investissements sur les investissements industriels pour Ariane 6.
Madame Villain, vous qui connaissez le marché aussi effectivement des pays émergents, qu'est-ce qui distingue finalement vraiment les clients d'Ariane des clients, je sais pas, chinois, indiens
Les clients dont parlait Monsieur Charmeau sont les clients du domestique, les clients du gouvernement, des opérateurs de satellites de télécommunications qui appartiennent au gouvernement russe, qui appartiennent au gouvernement chinois, qui appartiennent au gouvernement indien. Et donc pour ces pays-là, on l'a bien vu d'ailleurs avec le cas du lancement qui était dans le reportage, le satellite indien, il était sur Ariane alors que l'Inde, elle développe un lanceur qui va en orbite géostationnaire, mais elle n'a pas la performance suffisante pour lancer les satellites de cette taille-là. Et donc, quand on compare les évolutions de prix dans le domaine des satellites, c'est encore plus compliqué presque que dans le domaine des lanceurs, parce que un satellite, on parle de satellites comme si tous étaient égaux, mais un satellite, c'est des pommes et des poires. Il y a des satellites qui ont des performances très évoluées. C'est le cas, par exemple, de tous les satellites qui sont construits en Europe et aux États-Unis. Donc, c'est les deux industries qui sont confrontées sur les marchés commerciaux pour des opérateurs comme Eutelsat ou SES, qui est la société basée au Luxembourg, qui sont parmi les plus grands clients d'Ariane et maintenant des autres lanceurs concurrents d'Ariane.
Vous vouliez ajouter un mot, Alain Charmeau ?
Oui, je voulais ajouter un mot sur effectivement la capacité de répondre aux besoins commerciaux. On a aussi des ingénieurs que n'ont peut-être pas d'autres pays, qui sont des ingénieurs capables de concevoir des systèmes complexes de façon simple. Et un des enjeux, effectivement, l'accès à l'espace restera quelque chose de complexe. Il faut déployer une énergie très très importante avec des objets très très légers pour pouvoir satelliser les masses qui nous sont demandées. Bon, nous avons ces grandes compétences dans l'industrie européenne, Airbus, Safran Launchers et nos partenaires, d'arriver à avoir des ingénieurs qui conçoivent des choses très complexes de façon à les fabriquer le plus simplement possible.
Mais quand même, enfin, par exemple, quand on voit que l'Inde a mis seulement 3 ans à arriver à lancer sur l'orbite de Mars un satellite, enfin moi je ne suis pas scientifique, mais ça a l'air d'être extrêmement rapide d'après ce qu'on lit. Ça vous a surpris?
Parce qu'on découvre les événements au dernier moment, mais derrière il y a énormément de travail. On a évoqué SpaceX tout à l'heure, SpaceX a commencé en 2002. Donc tout ceci se mature lentement et puis ensuite apparaît assez brutalement au dernier moment.
Une toute petite question d'Hakim, ce sera la dernière.
Alors, pour conclure, hein, Rachel Villain, ce qu'il faut expliquer, c'est que l'avenir aussi sur les satellites, ce sont bien sûr le poids. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il faut payer 20 millions de dollars pour 1 kilo dans l'espace. Ça veut dire qu'il faudra faire des satellites de plus en plus petits avec différentes applications.
Oui, il y a cette innovation technologique qui est introduite par la propulsion électrique des satellites qui est en train, qu'a complètement intégré les lanceurs nouveaux, Ariane 6, mais les autres lanceurs en développement également à travers le monde. Donc le fait que avec la propulsion électrique, on économise sur le carburant du satellite qui est nécessaire pour au moment où il est séparé du lanceur pour rejoindre son orbite finale en géostationnaire. Et donc toute cette économie de masse, elle peut être mise à deux finalités. Soit on a des coûts de lancement moindres puisque effectivement, on a un satellite plus petit, mais il y a aussi une autre option qui est l'option plus productive, c'est-à-dire où l'économie qui est faite sur la masse est utilisée pour faire une charge utile du satellite beaucoup plus performante, qui en équivalent d'un satellite à propulsion chimique ferait peut-être 8 tonnes au lieu de faire 5 tonnes en propulsion électrique. Donc il y a ces deux options actuellement et qui sont en train de se développer sur le marché commercial de ces grands opérateurs qui sont parmi les clients, les principaux clients d'Ariane et qui font ce marché commercial.
Un petit mot de conclusion peut-être à vous aussi, Alain Charmeau, disons que les clients que vous visez maintenant sont vraiment qui? Est-ce que ça reste les grands programmes spatiaux initiés par le CNES et autres? Est-ce que ça va être vraiment les lanceurs de satellites, par exemple dans les télécommunications? Qu'est-ce qui vous fait rêver?
Alors tout nous fait rêver. Effectivement, on aura un mix beaucoup plus diversifié en termes de clientèle dans le futur. Et c'est un des enjeux d'Ariane 6 que de répondre avec en fait deux versions de lanceurs à l'ensemble de ses clients. Nous aurons des grandes missions scientifiques. Il faut continuer de faire Rosetta. Il faut continuer l'exploration du système solaire. Il faut continuer la surveillance de la Terre, y compris la surveillance du climat, bien évidemment. Et puis nous aurons l'accès à Internet qui va développer un nouveau marché avec une nouvelle économie. Il faudra que nous ayons des lanceurs moins chers pour que vous ayez des abonnements téléphoniques les moins chers possibles.
Merci beaucoup Alain Charmeau, président d'ASL. Merci Rachel Villain, vous êtes consultante, d'avoir participé tous les deux à ce magazine de la rédaction réalisé par Annie Bro. C'était un reportage de Hakim Kasmi à la technique ce soir. Francis Pascal, vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster, la commenter sur France Culture.fr grâce à Éric Chavroux.